Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du vendredi 20 septembre 2019, en direct de Washington. Idrissa Sedoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, un commissaire de police a été tué par une foule en colère à Niono et deux filles tuées dans des violences intercommunautaires à Tombouctou.
Le patron d'Africom, le général Stephen Townsend, s'engage à renforcer et à équiper l'armée du Niger dans la lutte anti-djihadiste et contre les activités criminelles.
L'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, dont la chute avait marqué le point de départ du printemps arabe, est décédé jeudi à Jeddah, en Arabie Saoudite.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour une solution pacifique avec l'Iran après les récentes attaques contre des installations pétrolières saoudiennes.
Nouvelle controverse à Washington entre l'exécutif et le législatif. Elle porte sur le signalement d'un lanceur d'alerte impliquant le président Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, un commissaire de police et un jeune manifestant ont perdu la vie lors d'une échauffourée entre la police et la population de Niono. Cette dernière avait demandé la révocation du commissaire, l'accusant d'être de connivence avec des bandits de la localité. Précision de notre correspondant Kassim Traoré.
Les populations de Niono ne s'entendaient plus avec leur commissaire à cause de la multiplication de l'insécurité et des braquages. Le commissaire dont la révocation avait été demandée a signé son retour 24 heures avant les incidents. C'est ainsi que la population s'est mobilisée pour se diriger vers le commissariat. Selon le communiqué du ministère de la Sécurité, le commissaire divisionnaire Issiaka Tunkara, blessé à la tête, a été rattrapé et assassiné par les manifestants. En outre, ces manifestants ont cassé les magasins d'armes, emporté des armes, incendié des véhicules d'intervention. Tidiane Koulibaly, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Niono.
Du côté de la population, il y a eu un mort. Il y a eu des gens qui ont reçu des balles dans le dos, dans les jambes. Les balles qui ont été tirées au niveau du commissariat, peut-être que le mort serait victime de cela, mais jusque-là, nous ne pouvons rien confirmer par rapport à ça.
En plus des deux victimes, il y a 22 blessés, dont un gendarme et 4 cas graves parmi les policiers. Face à cette situation, le ministre de la Sécurité a rappelé que des dispositions ont été prises pour ramener le calme et la quiétude dans la ville de Niono, région de Ségou, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Pendant ce temps, à Tombouctou, dans le nord du Mali, deux fillettes ont été tuées hier dans des violences intercommunautaires. Les nouvelles tensions ont éclaté mercredi après que des inconnus ont forcé des barrages mis en place par des jeunes de Tombouctou après l'enlèvement pendant 3 jours de deux des leurs, selon des témoins. La Croix-Rouge et la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA, ont exprimé leur inquiétude devant ces violences. À noter que ces tensions sont fréquentes entre les populations sédentaires de la région et les communautés Touareg et Arabes. La MINUSMA a dit mener des actions sécuritaires avec la police des Nations Unies et les forces maliennes.
Le général Stephen Townsend, chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM, a indiqué hier que son pays s'engageait à renforcer et à équiper l'armée du Niger dans la lutte anti-djihadiste et contre les activités criminelles. Les détails avec Irénée Herman Ungbo.
C'était à l'occasion d'un entretien avec le président nigérien Muhammadu Issifou sur des questions liées à la sécurité, la défense notamment la collecte et le partage de renseignements, la surveillance et la reconnaissance. Les États-Unis, à travers le général Stephen Townsend, se sont engagés à renforcer et à équiper les forces de défense et de sécurité du Niger pour les aider à mieux faire face aux menaces régionales et dissuader les activités criminelles dans le pays. Selon la radio publique nigérienne, le général Townsend Townsend visitera les bases militaires américaines 101 et 201 installées à Niamey et à Agadez dans le nord nigérien. D'après le général américain, la mise en service effective de la base d'Agadez apportera au Niger plus de capacité de mission, d'agilité, de polyvalence et une gamme d'options de sécurité. Le 4 octobre 2017, 4 soldats américains et 5 militaires nigériens ont été tués par des djihadistes près de Tongo Tongo, non loin de la frontière avec le Mali. Cette attaque a été revendiquée par le groupe État islamique dans le Grand Sahara.
L'ancien président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, dont la chute début 2011 avait marqué le point de départ du printemps arabe, est décédé jeudi à Jeddah en Arabie Saoudite où il vivait en exil, ont indiqué les autorités tunisiennes. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Au Nigeria, l'armée a fermé des locaux de l'ONG française Action contre la faim dans le nord-est du pays, foyer de l'insurrection djihadiste de Boko Haram. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Hier, des militaires à bord de deux véhicules blindés sont arrivés devant les locaux d'Action contre la faim à Damaturu, dans l'état de Yobe, et ont évacué le personnel de l'ONG Manu Militari. La veille, ce sont les bureaux d'ACF Maïdougouri qui ont été fermés par l'armée sans aucune explication. Le directeur pays d'ACF, Chachouat Saraf, a confirmé la fermeture de ces bureaux tout en affichant sa grande surprise. Pour l'instant, nous n'avons toujours aucune information, dit-il. L'armée nigériane, qui a tenu une conférence de presse hier à Maïdougouri sur la situation dans le nord-est, n'a fait aucun commentaire. Les relations entre l'armée nigériane et les ONG dans le nord-est du pays ont toujours été très tendues. En août 2017, des soldats avaient mené une fouille jugée illégale dans un camp des Nations Unies de Maïdougouri et les bureaux à Abuja d'Amnesty International sont régulièrement visés.
En Sierra Leone, les auteurs de viols pourront désormais être condamnés à la prison à vie, selon un texte adopté jeudi par le Parlement. Ce pays est confronté à grande échelle aux violences sexuelles, notamment contre les enfants. Ces crimes étaient jusqu'alors punis de 5 à 15 ans de prison. Le texte doit à présent être promulgué par le président.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, une plainte d'un lanceur d'alerte au sein des services de renseignement américains est devenue le dernier bras de fer entre l'exécutif et le législatif. Cette plainte aurait trait au président Donald Trump et à l'Ukraine, selon le Washington Post. Citant deux anciens responsables américains, ce journal dit que M. Trump a fait, je cite, une promesse non spécifiée à un leader étranger qui pourrait être, laissons entendre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Maison-Blanche n'a pas commenté, mais plutôt dans la journée hier, le président Trump avait dénoncé et ridiculisé ces informations sur une prétendue promesse à un leader étranger, les qualifiant de « fake news ».
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, en tournée dans le Golfe, a assuré que les États-Unis privilégiaient une solution pacifique avec l'Iran, qu'il accuse d'être à l'origine de la récente attaque contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Monsieur Pompeo a rencontré jeudi le puissant prince héritier d'Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. À l'issue de leur entretien, il a évoqué l'existence d'un consensus dans le Golfe sur la responsabilité de l'Iran dans les attaques. Nous sommes ici pour bâtir une coalition destinée à parvenir à la paix et à une solution pacifique, a déclaré le chef de la diplomatie américaine avant de s'envoler pour Washington, disant espérer que l'Iran voit les choses de la même manière. Son homologue saoudien Adel Al-Joubert a réagi sur Twitter en avertissant que toute complaisance envers Téhéran allait l'encourager à commettre d'autres actes de terrorisme et de sabotage dans notre région. Le président américain Donald Trump avait dépêché mardi M. Pompeo à Jeddah pour discuter de la réponse à apporter aux attaques contre le royaume allié. Interrogé par la télévision américaine CNN, le chef de la diplomatie iranienne Mohamed Javad Zarif a déclaré qu'une frappe américaine ou saoudienne déclencherait une guerre totale, ajoutant que son pays ne voulait pas la guerre, mais ne tremblerait pas s'il s'agissait de se défendre.
Ajoutons que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a annoncé avoir lancé hier une opération militaire au Yémen contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran. Il s'agit de la première depuis les attaques de drones sur des installations pétrolières saoudiennes la semaine dernière. La coalition a détruit 4 sites situés au nord de la ville portuaire de Hodeida, utilisés par les rebelles pour assembler des bateaux télécommandés et des mines marines, selon un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne. La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Nigeria a perdu 22 millions de barils de pétrole, soit 1,35 milliard de dollars entre janvier et juin à cause du vandalisme sur ses oléoducs. Si cette situation n'est pas maîtrisée, dans 2 ans, le pays aura perdu plus de 2,7 milliards de dollars, selon la Société nationale des hydrocarbures. Le Nigeria est le premier producteur de brut du continent africain. Ses réserves sont estimées à 70 milliards de barils et sa production frôle les 2 millions de barils par jour. Les autorités éthiopiennes ont rejeté la proposition de l'Égypte d'exploiter un barrage hydroélectrique de 4 milliards de dollars construit par l'Éthiopie. Les deux pays ne sont pas d'accord sur le débit annuel d'eau qui devrait être garanti à l'Égypte et sur la gestion des débits en période de sécheresse. L'Égypte compte sur le Nil pour 90% de son approvisionnement en eau douce et souhaite que le réservoir du barrage libère un minimum de 40 milliards de mètres cubes par an, soit un volume d'eau plus important que celui que l'Éthiopie est disposée à garantir. Pour terminer cette minute éco, l'appui de l'Union européenne à la filière banane en Afrique pour faire face à la concurrence latino-américaine ne sera pas reconduit après 2019. Cela risque de menacer les emplois et le développement dans les régions productrices de bananes des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. La filière banane africaine représente 60 000 emplois directs avec pour principal débouché commercial l'Union européenne.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Début aujourd'hui du mondial de rugby Japon 2019.
20 pays sont en liste, dont 2 Africains, la Namibie et l'Afrique du Sud. L'entraîneur sud-africain Rassi Erasmus a misé sur 22 des 23 joueurs qui avaient obtenu le nul 16-16 fin juin en Nouvelle-Zélande pour défier les All Blacks dans le grand choc du début de ce mondial demain à Yokohama. Le seul changement concerne la troisième ligne où le capitaine Siya Kolisi, absent sur blessure fin juin, sera bien présent. Le vainqueur de ce match entre 2 des grands favoris sera quasiment assuré de terminer en tête de la poule B et d'éviter l'Irlande en quart de finale. Le match d'ouverture opposera ce matin l'hôte japonais à la Russie.
Match amical Algérie-Colombie à Lille.
L'Algérie, vainqueur de la CAN 2019, et la Colombie se rencontreront lors d'un match amical au stade Pierre Monroy dans le nord de la France le 15 octobre. Les Fenech n'ont plus joué en France depuis un match amical contre le Mali le 18 novembre 2008 à Rouen. Avant 2008, l'Algérie avait souvent joué des rencontres amicales sur le sol français pendant les années 2000 et y compris après la France-Algérie d'octobre 2001, le seul match entre les deux pays qui avait dû être interrompu après l'envahissement du terrain par des supporters de l'Algérie. Le 10 septembre, le président de la Fédération française Noël Le Graët a émis le souhait que les Bleus puissent à nouveau affronter les Fenech, mais cette fois en Algérie, une affiche qui aurait fière allure entre les actuels champions du monde et champions d'Afrique.
10e club professionnel pour le Ghanéen Asamoah Gyan.
Libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Kayserispor en Turquie, l'international ghanéen s'est engagé avec North East United en Inde dans la Super League, le championnat de première division. Asamoah Gyan rejoint ici son 10e club professionnel après notamment Sunderland, Rennes, Shanghai ou encore Al Ahly. Aucune indication n'a été donnée sur la durée de son contrat. C'est une nouvelle expérience pour Gyan qui détient le record de buts sous le maillot des Black Stars, 51 buts. Il est également le meilleur buteur africain en Coupe du Monde avec 5 réalisations.
Ligue Europa, Arsenal et Séville frappent d'entrée.
Arsenal qui se déplaçait à Francfort dans une des grosses affiches de la première journée de la Ligue Europa a d'abord ouvert le score par le jeune anglais Joseph Willock et a ensuite aggravé la marque dans les dernières minutes par Bukayo Saka, puis par le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Score final 3-0. Même score pour le FC Séville à l'extérieur contre les Azeris de Karabakh. Pour le Luxembourg, la soirée a été historique au terme d'une rencontre épique. À Nicosie, Doudelank FC s'est imposé 4-3 sur le terrain de l'Apoel, signant du même coup la première victoire d'un club luxembourgeois en phase finale de la Ligue Europa. A noter également le carton de Bale à domicile contre Krasnodar 5-0, le match nul entre Rennes et le Celtic 1-1 et la victoire du PSV Eindhoven contre le Sporting Portugal 3-2.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, les 67 membres du nouveau gouvernement ont signé mercredi un acte d'engagement éthique contre la corruption et l'enrichissement illicite. Le texte leur interdit, entre autres, de recevoir des cadeaux de plus de 350 000 francs congolais, soit 190 euros par an. Eddie Isango a joint à Kinshasa un des coordonnateurs du mouvement citoyen Felimbi, Carbone Béa.
Il faut saluer cet acte d'engagement au code d'éthique par rapport aux membres de l'exécutif. C'est une première aussi, si je ne m'abuse pas, dans notre pays, que le ministre puisse être confronté à un acte d'engagement qui va absolument déterminer leur manière de travailler en termes d'éthique, en termes de dignité et en termes même de responsabilité face aux fonctions et aux tâches qui leur sont attribuées.
Entre autres engagements pris par les membres du gouvernement, c'est de ne pas accepter des cadeaux de plus de 350 000 francs congolais. Est-ce que vous pensez que ce sera respecté? C'est possible pour eux d'observer cela?
Il faudrait qu'à ce stade, l'opinion nationale et nous, la société civile, puissions être au courant des articles ou des dispositions qui figurent dans ces codes de bonne conduite. Parce que c'est par rapport à la connaissance des faits, à la connaissance sur les données qui contiennent ces codes de bonne conduite ou ces codes éthiques que nous pourrons faire le suivi et faire pression au ministre de ne pas aller à gauche ou au cas où on remarque un ministre, un membre du gouvernement biaisé ou marcher sur les dispositions qu'il avait signées, nous pourrons nous alerter l'opinion publique parce qu'on ne devient pas ministre effectivement pour s'enrichir. Le Congo a traversé un moment où chacun devait devenir ministre ou obtenir une promotion au sein du gouvernement pour voler, s'enrichir, s'acheter des parcelles et des voitures. Cette culture a même suivi, n'est-ce pas, ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement. Nous avons beaucoup constaté que quand ils ont été nommés par les chefs de l'État, d'autres ont fait de fêtes chez eux, ils se sont filmés avec leur famille en train de mettre de poudre sur des assiettes. Question de dire, ah, c'est notre tour, Dieu soit loué, on s'y retrouve et on va s'enrichir.
Déjà, les lois congolaises disent qu'ils doivent déposer une déclaration de leurs biens, en commençant par les chefs de l'État. Le mouvement citoyen avait un moment fait de bruit, mais ça n'a jamais été respecté ni suivi.
D'abord, il faudrait que ces ministres, en commençant par le chef de l'État lui-même, puissent déclarer leurs avoirs. Aujourd'hui, ça n'a pas été fait. À notre niveau, nous allons essayer, une fois de plus, de remettre cette campagne en place pour que ces gens puissent déclarer leurs avoirs.
Les ministres s'engagent à démissionner s'ils ne respectaient pas cet acte d'engagement ou d'éthique. Comment faire pour contrôler les membres du gouvernement s'ils ont respecté ou pas?
Le premier contrôle doit être le contrôle citoyen. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle institutionnel, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, au niveau du Premier ministre. J'ose croire que ces codes d'éthique qui existent aujourd'hui a prévu aussi, d'une part, un mécanisme de contrôle au niveau des institutions, à travers notamment l'ANR, l'Agence nationale de renseignement.
C'était Carbone Béa, un des coordonnateurs du mouvement citoyen Filimbi.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24h sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Au Burkina Faso, plus d'un million de candidats prennent part cette semaine au concours d'accès à la fonction publique pour quelque 5000 postes, soit 211 candidats pour chaque poste. Conséquence du marasme économique dans le pays, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Lamine Traoré.
Depuis hier, 1 247 751 candidats ont entamé les épreuves écrites des concours d'accès à la fonction publique. Seulement 5 892 postes sont disponibles, soit un poste pour 211 candidats.
Je pars pour prendre une part, pas pour tenter. Donc, parce que s'il arrive qu'il y a des gens qui partent pour leur première fois et ils réussissent, c'est pas moi qui va au fait aller pour faire des reprises.
Adama Dibri, étudiant en lettres modernes, passe pour la première fois ces concours.
Ça fait avec sa sens, parce qu'il y a des concours où on demande 5 candidats, peut-être 7 candidats, mais il y a des gens qui arrivent à gagnent avec des mentions et ils sont peut-être des premiers. Donc moi aussi, avec mon espoir, je me dis que je vais aller tenter ma chance.
Abdoul Latif Koutou est commerçant à Ouagadougou. Il déplore le nombre plutôt de candidats.
1 million et quelques de candidats pour 5 000 postes, vraiment, c'est que ça ne va pas. Ils peuvent entreprendre autrement, mais ça, il faut dans le privé. Vous savez que le privé aussi au Burkina, ici, c'est pas facile aussi. Entreprendre aussi personnellement, ça encore, ça demande un moyen. C'est ce qui est difficile ici aussi.
Cette situation est due au fait que l'État reste le plus gros pourvoyeur d'emplois.
Le tissu économique au niveau national, on sait ce qu'il est, il n'est pas capable de résorber, j'allais dire, tous ceux qui sortent.
Abdoulaye Tao est le directeur de publication de l'économiste du FASO, un journal spécialisé sur les questions économiques.
On n'a pas beaucoup d'industries, c'est fait plutôt d'entreprises de commerce qui sont très petites, en dehors des quelques multinationales qui recrutent. Le niveau d'absorption au niveau du secteur privé reste très faible. Il n'y a pas beaucoup de création d'emplois. Donc, l'État reste en fait l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois pour les jeunes qui sortent des écoles.
Cette année, des innovations ont été apportées au concours, selon Oumarou Toué, directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État.
Et elles sont particulièrement liées au e-concours, les innovations en matière d'abord d'inscription. Exceptionnellement, cette année, nous avons fait des inscriptions en ligne. Nous avons renforcé les dispositifs pour la correction électronique qui a démarré depuis la session dernière.
Ces concours se poursuivent jusqu'au 30 septembre. En 2018, ce sont 1 315 515 candidats qui étaient en liste pour 6 668 postes. Ce nombre de candidats restera en forte croissance tant qu'il n'y aura pas la création de nombreuses entreprises, selon plusieurs analystes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Maintenant avec John Lyndon, rappel des grandes dates du régime du président déchu Zine El Abidine Ben Ali, décédé hier en Arabie Saoudite, où il vivait en exil depuis la révolution de 2011.
En octobre 1997, après plusieurs mois de manifestations islamistes, le président Habib Bourguiba nomme son ministre de l'Intérieur, le général Zine El Abidine Ben Ali, au poste de premier ministre. Un mois après, Ben Ali écarte Bourguiba, malade et reclus dans son palais. Puis il fait changer la constitution pour supprimer la présidence à vie et limiter à 3 le nombre de mandats présidentiels d'une durée de 5 ans. En 1989, Ben Ali, unique candidat, est élu pour son premier mandat avec 99,27% des suffrages. 5 ans plus tard, il est réélu avec un score de 99,91%. Ben Ali est reconduit pour un troisième mandat en 1999 avec 99,44% des suffrages. En mai 2002, il fait amender la Constitution pour briguer un autre mandat. Il est réélu sans surprise en 2009 pour 5 ans avec seulement 89,62% des voix, la première fois en dessous de la barre fatidique des 90%. Le 17 décembre 2010, un jeune vendeur ambulant s'immole par le feu à Sidi Bouzid, déclenchant un mouvement de protestation contre le chômage et la vie chère. Des milliers de manifestants, au cri de Ben Ali dégage, se rassemblent à Tunis et dans presque toutes les villes. Ben Ali, au pouvoir depuis 23 ans, fuit en Arabie Saoudite. Ce soulèvement qui a fait 338 morts a marqué le début de ce qui sera appelé le printemps arabe.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Pour terminer, ici aux États-Unis, au cœur d'Harlem, des restaurants ouest-africains, des magasins de téléphonie mobile à bas prix, des boutiques de vêtements pleines de wax et de bazar et des supérettes avec des condiments tels que des cubes magie et de la mayonnaise calvée et du poisson fumé. Si vous ne l'avez pas déjà deviné, nous sommes à Little Sénégal ou Petit Sénégal, le quartier des immigrés ouest-africains situé tout au nord de la ville de New York, entre la 116 et le boulevard Malcolm X. Toutefois, autrefois prospère et coloré, ce segment d'Harlem ne cesse de se rétrécir et d'être envahi par les grandes chaînes de fast-food, perdant ainsi son charme à l'africaine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il cesse d'être le lieu de référence pour se ressourcer sans prendre l'avion. Lily Dico s'est rendue sur place. Elle nous fait le constat d'une journée passée à Little Sénégal.
Little Sénégal est le meilleur de deux mondes, un microcosme dans lequel les Ouest-Africains se retrouvent lorsqu'ils ont le mal du pays pour se procurer quelques denrées venues tout droit du continent ou savourer des plats authentiques comme l'attiéké ou le tiéboudjène. Écoutons ce client du restaurant sénégalais Le Baobab qui explique que cette adresse est sa préférée pour venir se ressourcer.
Parfois nous venons manger ici lorsque le Sénégal nous manque, vous savez. Quand on a un peu de temps et qu'on ne travaille pas, nous venons manger ici.
À Little Sénégal, même si les affaires marchent, le nombre de restaurants et de commerces a nettement diminué au cours de la dernière décennie. L'augmentation du prix du loyer est insoutenable pour les petits commerçants africains qui se retrouvent ainsi poussés par la gentrification vers des quartiers comme le Bronx où le loyer reste encore abordable. Pour Fatou, une immigrée sénégalaise ayant réussi à ouvrir avec sa sœur trois épiceries sur la 116, au-delà de l'aspect économique, la fonction la plus importante de Little Sénégal est de créer un esprit de communauté. Fatou Nyang, gérante du magasin Adjakadi, nous en dit plus.
Nous proposons toutes sortes de marchandises et je pense que les gens apprécient vraiment cela. Nous essayons de le faire de la manière la plus professionnelle possible. Je pense que c'est une bonne façon d'offrir sa contribution à la communauté.
L'appartenance à la communauté est également un sentiment auquel fait écho Moussa Traoré, un immigré originaire du Mali. Selon lui, Little Sénégal, qui abrite à la fois le consulat du Sénégal et l'association des Sénégalais de New York, n'est pas une représentation du Sénégal, mais plutôt de l'Afrique de l'Ouest, y compris des pays anglophones comme le Ghana ou le Nigeria. Écoutons Moussa Traoré.
Beaucoup de personnes pensent que ce quartier est celui des Sénégalais, mais nous le considérons plutôt comme le quartier des Ouest-Africains. Il y a ici des personnes de toute la région. Certains sont venus du Niger, d'autres de la Côte d'Ivoire, des Sénégalais et des Maliens et même des Ghanéens, sans oublier les Burkinabés. Je pense que le terme Little Africa décrit mieux la réalité. Même les Américains appellent cet endroit le quartier africain, sans préciser. C'est en fait le bloc des Africains.
Le quartier qui doit son nom à l'arrivée massive d'immigrés sénégalais dans les années 70 puis au début des années 90 avec l'Immigration Act ayant donné lieu à la loterie de la Green Card est effectivement de nos jours davantage un lieu de melting pot ouest-africain. Et malgré l'augmentation fulgurante du prix du mètre carré qui se voit triplé voire quadruplé à la fin du bail de location, Little Sénégal sert toujours de ciment à la communauté ouest-africaine de New York. Dili Dico, VOA, New York.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, job blessed, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Greg Burns. Merci à Michel Joseph pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.